Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, à Monsieur d'Alembert, de l'Académie française, de l'Académie royale des sciences de Paris, de celle de Prusse, de la Société royale de Londres, de l'Académie royale des belles-lettres de Suède et de l'Institut de Bologne, sur son article « Genève » dans le 7e volume de l'encyclopédie et particulièrement sur le projet d'établir un théâtre de comédie en cette ville. Préface. J'ai tort si j'ai pris en cette occasion la plume sans nécessité. Il ne peut n'être ni avantageux ni agréable de m'attaquer à M. d'Alembert. Je considère sa personne. J'admire ses talents. J'aime ses ouvrages. Je suis sensible au bien qu'il a dit de mon pays. Honoré moi-même de ses éloges, un juste retour d'honnêteté m'oblige à toutes sortes d'égards envers lui. Mais les égards ne l'emportent sur les devoirs que pour ceux dont toute la morale confine en apparence. Justice et vérité, voilà les premiers devoirs de l'homme. Humanité et patrie, voilà ses premières affections. Toutes les fois que des ménagements particuliers lui font changer cet ordre, il est coupable. Et puis-je l'être en faisant ce que j'ai dû ? Pour me répondre, il faut avoir une patrie à servir et plus d'amour pour ses devoirs que de crainte de déplaire aux hommes. Comme tout le monde n'a pas sous les yeux l'encyclopédie, je vais transcrire ici, de l'article Genève, le passage qui m'a mis la plume à la main. Il aurait dû l'en faire tomber si j'aspirais à l'honneur de bien écrire. Mais j'ose en chercher un autre dans lequel je ne crains la concurrence de personne. En lisant ce passage isolé, plus d'un lecteur sera surpris du zèle qu'il a pu dicter. En le disant dans 100 articles, on trouvera que la comédie, qui n'est pas à Genève et qui pourrait y être, tient la 8e partie de la place qu'occupent les choses qui y sont. On ne souffre point de comédie à Genève. Ce n'est pas qu'on y désapprouve les spectacles en eux-mêmes, mais on craint, dit-on, le goût de parure, de dissipation et de libertinage que les troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse. Cependant, ne serait-il pas possible de remédier à cet inconvénient par des lois sévères et bien exécutées sur la conduite des comédiens ? Par ce moyen, Genève aurait des spectacles et des mœurs et jouirait de l'avantage des uns et des autres. Les représentations théâtrales formeraient le goût des citoyens et leur donneraient une finesse de tact, une délicatesse de sentiment qu'il est très difficile d'acquérir sans ce secours. La littérature en profiterait sans que le libertinage fît des progrès et Genève réunirait la sagesse de Lacédémone à la politesse d'Athènes. Une autre considération, digne d'une république si sage et si éclairée, devrait peut-être l'engager à permettre les spectacles. Le préjugé barbare contre la profession de comédien, l'espèce d'avilissement où nous avons mis ces hommes si nécessaires au progrès et au soutien des arts, est certainement une des principales causes qui contribuent au dérèglement que nous leur reprochons. Ils cherchent à se dédommager par les plaisirs de l'estime que leur état ne peut obtenir. Parmi nous, un comédien qui a des mœurs est doublement respectable, mais à peine lui en fait-on gré. Le traitant qui insulte à l'indigence publique et qui s'en nourrit, le courtisan qui rampe et qui ne paie point ses dettes, voilà l'espèce d'homme que nous honorons le plus. Si les comédiens étaient non seulement soufferts à Genève, mais contenus d'abord par des règlements sages, protégés ensuite et même considérés dès qu'ils en seraient dignes, enfin absolument placés sur la même ligne que les autres citoyens, cette ville aurait bientôt l'avantage de posséder ce qu'on croit si rare et qui ne l'est que par notre faute, une troupe de comédiens estimables. Ajoutons que cette troupe deviendrait bientôt la meilleure de l'Europe. Plusieurs personnes, pleines de goût et de disposition pour le théâtre, et qui craignent de se déshonorer parmi nous en s'y livrant, accourraient à Genève pour cultiver, non seulement sans honte, mais même avec estime, un talent si agréable et si peu commun. Le séjour de cette ville, que bien des Français regardent comme triste par la privation des spectacles, deviendrait séjour des plaisirs honnêtes, comme il est celui de la philosophie et de la liberté. Et les étrangers ne seraient plus surpris de voir que dans une ville où les spectacles décents et réguliers sont défendus, permettent des farces grossières et sans esprit, aussi traite au bon goût qu'aux bonnes mœurs. Ce n'est pas tout. Peu à peu, l'exemple des comédiens, Genève, la régularité de leur conduite et la considération dont elle les saurait jouir, servirait de modèle aux comédiens des autres nations et de leçon à ceux qui les ont traités jusqu'ici avec tant de rigueur et même d'inconséquence. On ne les verrait pas d'un côté pensionnés par le gouvernement et de l'autre un objet d'anathème. Nos prêtres perdraient l'habitude de les excommunier et nos bourgeois de les regarder avec mépris. Et une petite république aurait la gloire d'avoir réformé l'Europe sur ce point, plus important peut-être qu'on ne pense. Fin de l'article. Voilà certainement le tableau le plus agréable et le plus séduisant qu'on puisse nous offrir. Mais voilà en même temps le plus dangereux conseil qu'on puisse nous donner. Du moins, tel est mon sentiment. Et mes raisons sont dans cet écrit. Avec quelle avidité la jeunesse de Genève, entraînée par une autorité d'un si grand poids, ne se livrera-t-elle point à des idées auxquelles elle n'a déjà que trop de penchant ? Combien, depuis la publication de ce volume, de jeunes Genevois, d'ailleurs bons citoyens, n'attendent-ils que le moment de favoriser l'établissement d'un théâtre, croyant rendre un service à la patrie et presque au genre humain. Voilà le sujet de mes alarmes. Voilà le mal que je voudrais prévenir. Je rends justice aux intentions de M. de D'Alembert. J'espère qu'il voudra bien la rendre aux miennes. Je n'ai pas plus d'envie de lui déplaire que lui de nous nuire. Mais enfin, quand je me tromperai, ne dois-je pas agir, parler selon ma conscience et mes lumières ? Ai-je dû me taire, l'ai-je pu, sans trahir mon devoir et ma patrie ? Pour avoir droit de garder le silence en cette occasion, il faudrait que je n'eusse jamais pris la plume sur des sujets moins nécessaires. Douce obscurité qui fit 30 ans mon bonheur, il faudrait avoir toujours su l'aimer, il faudrait qu'on ignorât que j'ai eu quelques liaisons avec les éditeurs de l'encyclopédie, que j'ai fourni quelques articles à l'ouvrage, que mon nom se trouve avec ceux des autres. Il faudrait que mon zèle pour mon pays fût moins connu, qu'on supposât l'article Genève m'eût échappé ou qu'on ne pût m'affairer de mon silence que j'adhère à ce qu'il contient. Rien de tout cela ne pouvant être, il faut donc parler. Il faut que je désavoue ce que je n'approuve point, afin qu'on ne m'impute pas d'autres sentiments que miens. Mes compatriotes n'ont pas besoin de mes conseils, je le sais bien, mais moi, j'ai besoin de m'honorer en montrant que je pense comme eux sur certaines maximes. Je n'ignore pas combien c'est écrit, si loin de ce qu'il devrait être, et loin même de ce que j'aurais pu faire en de plus heureux jours. Tant de choses ont concouru à le mettre au-dessous du médiocre, où je pouvais autrefois atteindre, que je m'étonne qu'il ne soit pas pire encore. J'écrivais pour ma patrie. S'il était vrai que le zèle tint lieu de talent, j'aurais fait mieux que jamais, mais j'ai vu ce qu'il fallait faire, et n'ai pu l'exécuter. J'ai dit froidement la vérité. Mais qui est-ce qui se soucie d'elle ? Triste recommandation pour un livre. Pour être utile, il faut être agréable, et ma plume a perdu cet art-là. D'elle me disputera malignement cette perte, soit. Cependant, je me sens déchu et l'on ne tombe pas au-dessus de rien. Précisément, il ne s'agit plus ici d'un vain babil de philosophie, mais d'une vérité de pratique importante à tout un peuple. Il ne s'agit plus de parler au petit nombre, mais au public, ni de faire penser les autres, mais d'expliquer nettement ma pensée. Il a donc fallu changer de style. Pour me faire mieux entendre à tout le monde, j'ai dit moins de choses en plus de mots. Et voulant être clair et simple, je me suis trouvé lâche et diffus. Je comptais d'abord sur une feuille ou deux d'impressions tout au plus. J'ai commencé à la hâte et mon sujet s'étendant sous ma plume, je l'ai laissé aller sans contrainte. J'étais malade et triste, et quoique j'eusse grand besoin de distraction, je me sentais si peu en état de penser et d'écrire que si l'idée d'un devoir à remplir me eût soutenu, j'aurais jeté 100 fois mon papier au feu. J'en suis devenu moins sévère à moi-même. J'ai cherché dans mon travail quelque amusement qui me le fît supporter. Je me suis jeté dans toutes les digressions qui se sont présentées sans prévoir combien, pour soulager mon ennui, j'en préparais peut-être au lecteur. Le goût, le choix, la correction ne sauraient se trouver dans cet ouvrage. Vivant seul, je n'ai pu le montrer à personne. J'avais un Aristarque sévère et judicieux, je ne l'ai plus. Je n'en veux plus. Je le regretterai sans cesse, et il manque bien plus encore à mon cœur qu'à mes écrits. La solitude calme l'âme et apaise les passions, le désordre du monde a fait naître. Loin des vices qui nous irritent, on en parle avec moins d'indignation. Loin des mots qui nous touchent, le cœur en est moins ému. Depuis que je ne vois plus les hommes, j'ai presque cessé de haïr les méchants. D'ailleurs, le mal qu'ils m'ont fait à moi-même m'ôte le droit d'en dire deux. Il faut désormais que je leur pardonne pour ne leur pas ressembler. Sans y songer, je substituerai l'amour de la vengeance à celui de la justice. Il vaut mieux tout oublier. J'espère que l'on ne me trouvera plus cette âpreté qu'on me reprochait, mais qui me faisait lire. Je consens d'être moins lu, pourvu que je vive en paix. À ces raisons, il s'en joint une autre plus cruelle et que je voudrais en vain dissimuler. Le public ne la sentirait que trop malgré moi. Si dans les essais sortis de ma plume, ce papier est encore au-dessous des autres, c'est moins la faute des circonstances que la mienne. C'est que je suis au-dessous de moi-même. Les maux du corps épuisent l'âme, à force de souffrir, elle perd son ressort. Un instinct de fermentation passagère produisit en moi quelques lueurs de talent. Il s'est montré tard, il s'est éteint de bonheur. En reprenant mon état naturel, je suis rentré dans le néant. Je n'eus qu'un moment, il est passé, et j'ai la honte de me survivre. Lecteur, si vous recevez ce dernier ouvrage avec indulgence, vous accueillerez mon ombre, car pour moi, je ne le suis plus. À Montmorency, le 20 mars, 1758. Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, à Monsieur d'Alembert. J'ai lu, monsieur, avec plaisir, votre article Genève dans le 7e volume de l'Encyclopédie. L'article Genève qui a donné lieu à cette lettre de M. Rousseau sera imprimé dans le premier du supplément avec les autres pièces qui y ont rapport. En le relisant avec plus de plaisir encore, il m'a fourni quelques réflexions que j'ai cru pouvoir offrir sous vos auspices au public et à mes concitoyens. Il y a beaucoup à louer dans cet article, mais si les éloges dont vous honorez ma patrie m'ôtent le droit de vous en rendre, ma sincérité parlera pour moi. N'être pas de votre avis sur quelques points, c'est assez m'expliquer sur les autres. Je commencerai par celui que j'ai le plus de répugnance à traiter et dont l'examen me convient le moins, mais sur lequel, c'est la raison, par la raison que je viens de dire, le silence ne m'est pas permis. C'est le jugement que vous portez de la doctrine de nos ministres en matière de foi. Vous avez fait de ce corps respectable un éloge très beau, très vrai, très propre à ceux seuls dans tous les clergés du monde et qu'augmente encore la considération qu'ils vous ont témoignée en montrant qu'ils aiment la philosophie et ne craignent pas l'œil du philosophe. Mais, monsieur, quand on veut honorer les gens, il faut que ce soit à leur manière et non pas à la nôtre, de peur qu'ils ne s'offensent avec raison des louanges nuisibles qui, pour être données à bonne intention, n'en blessent pas moins l'état, l'intérêt, les opinions ou les préjugés de ceux qui en sont l'objet. Ignorez-vous que tout nom de secte est toujours odieux et que de pareilles imputations, rarement sans conséquence pour les laïcs, ne le sont jamais pour des théologiens. Vous me direz qu'il est question de faits et non de louanges, et que le philosophe a plus d'égard à la vérité qu'aux hommes. Mais cette prétendue vérité n'est pas si claire, ni si indifférente, que vous en soyez en droit de l'avancer sans bonnes autorités. Et je ne vois pas où l'on en peut prendre pour prouver que les sentiments qu'un corps professe et sur lesquels il se conduit ne sont pas les liens. Vous me direz encore que vous n'attribuez point à tout le corps ecclésiastique les sentiments dont vous parlez. Mais vous les attribuez à plusieurs. Et plusieurs, dans un petit nombre, sont toujours une si grande partie que le tout doit s'en ressentir. Plusieurs pasteurs de Genève m'ont, selon vous, qu'un saucissianisme parfait. Voilà ce que vous déclarez hautement à la face de l'Europe. Et j'ose vous demander comment vous avez appris. Ce ne peut être que par vos propres conjectures, ou par le témoignage d'autrui, ou sur l'aveu des pasteurs en question. Or, dans les matières de pur dogme, et qui ne tiennent point à la morale, comment peut-on juger de la foi d'autrui par conjecture ? Comment peut-on même en juger sur la déclaration d'un tiers contre celle de la personne intéressée ? Qui fait mieux que moi ce que je crois ou ne crois pas ? Et à qui doit-on s'en rapporter là-dessus plutôt qu'à moi-même ? Qu'après avoir tiré des discours ou des écrits d'un honnête homme des conséquences sophistiques et désavouées, un prêtre acharné poursuive l'auteur sur ses conséquences, le prêtre fait son métier et n'étonne personne. Mais devons-nous honorer les gens de bien comme un fourbe les persécute ? Et le philosophe imitera-t-il des raisonnements captieux ? Il fut si souvent la victime. Il resterait donc à penser sur ceux de nos pasteurs que vous prétendez être sociniens, parfaits, et rejeter les peines éternelles qu'ils vous ont confiées là-dessus, leurs sentiments particuliers. Mais si c'était en effet leurs sentiments et qu'ils voulussent confier, sans doute ils vous l'auraient dit en secret, dans l'honnête et libre épanchement d'un commerce philosophique. Ils l'auraient dit au philosophe et non pas à l'auteur. Ils n'ont donc rien fait, et ma preuve est sans réplique, c'est que vous l'avez publié. Je ne prétends point pour cela juger ni blâmer la doctrine que vous leur imputez. Je dis seulement qu'on n'a nul droit de la leur faire imputer, à moins qu'ils ne la reconnaissent, et j'ajoute qu'elle ne ressemble en rien à celle dont ils nous instruisent. Je ne sais ce que c'est que le socinianisme, aussi je n'en puis parler ni en bien ni en mal, mais en général, je suis l'ami de toute religion paisible où l'on sert l'être éternel selon la raison qu'il nous a donnée. Quand un homme ne peut croire à ce qu'il trouve absurde, ce n'est pas sa faute, c'est celle de sa raison. Je crois voir un principe qui, bien démontré comme il pourrait l'être, arracherait à l'instant les armes des mains à l'intolérant et aux superstitieux et calmerait cette fureur de faire des prosélytes qui semble animer les incrédules. C'est que la raison humaine n'a pas de mesure commune bien déterminée et qu'il est injuste à tout homme de donner la sienne pour règle à celle des autres. Supposons de la bonne foi, sans laquelle toute dispute n'est que du caquet. Jusqu'à certains points, il y a des principes communs, une évidence commune, et de plus, chacun a sa propre raison qui le détermine. Ainsi, le sentiment ne mène point au scepticisme, mais aussi les bornes générales de la raison n'étant point fixées, et nul n'ayant inspection sur celle d'autrui, voilà tout d'un coup le fier dogmatique arrêté. Si jamais on pouvait établir la paix où règne l'intérêt, l'orgueil et l'opinion, c'est par là qu'on terminerait à la fin les dissensions des prêtres et des philosophes. Mais peut-être ne serait-ce le compte ni des uns ni des autres. Il n'y aurait plus ni persécution ni dispute. Les premiers n'auraient personne à tourmenter. Les seconds, personne à convaincre, autant vaudrait quitter le métier. Si l'on me demandait là-dessus pourquoi donc je dispute moi-même, je répondrais que je parle au plus grand nombre, que j'expose des vérités de pratique, que je me fonde sur l'expérience, que je remplis mon devoir, et qu'après avoir dit ce que je pense, je ne trouve point mauvais qu'on ne soit pas de mon avis. Et comment concevrais-je que Dieu le punisse de ne s'être pas fait un entendement ? Il faut se ressouvenir que j'ai répondu à un auteur qui n'est pas protestant, et je crois lui répondre en effet en montrant que ce qu'il accuse nos ministres de faire dans notre religion s'y serait inutilement et se fait nécessairement dans plusieurs autres sans qu'on y songe. Le monde intellectuel, sans en excepter la géométrie, est plein de vérités incompréhensibles et pourtant incontestables, parce que la raison qui les a montrées existantes ne peut les toucher, pour ainsi dire, à travers les bornes qu'il arrête, mais seulement les apercevoir. Tel est le dogme de l'existence de Dieu. Tels sont les mystères admis dans les communions protestantes, les mystères qui heurtent la raison. Pour me servir des termes de M. d'Alembert, sont toutes choses. Leur contradiction même les fait rentrer dans ses bornes. Elle a toutes les prises imaginables pour sentir qu'il n'existe pas. Car bien qu'on ne puisse voir une chose absurde, rien n'est si clair que l'absurdité. Voilà ce qui arrive lorsqu'on soutient à la fois deux propositions contradictoires. Si vous me dites qu'un espace d'un pouce est aussi un espace d'un pied, vous ne dites point du tout une chose mystérieuse, obscure, incompréhensible. Vous dites au contraire une absurdité lumineuse et palpable, une chose évidemment fausse. De quelque genre que soient les démonstrations qu'il établisse, elle ne saurait l'emporter sur celle qu'il a détruite, parce qu'elle est tirée immédiatement des notions primitives qui servent de base à toute certitude humaine. Autrement, la raison, déposant contre elle-même, nous forcerait à la récuser. Et loin de nous faire croire ceci ou cela, elle nous empêcherait de plus rien croire, attendu que tout principe de foi serait détruit. Tout homme, de quelque religion qu'il soit, qui dit croire à de pareils mystères, en impose donc, ou ne fait ce qu'il dit, contraire à celui qu'il a reçu de lui. Si un docteur venait m'ordonner de la part de Dieu de croire que la partie est plus grande que le tout, que pourrais-je penser en moi-même, sinon que cet homme vient de m'ordonner d'être fou ? Sans doute l'orthodoxe, qui ne voit nulle absurdité dans les mystères, est obligé de les croire, mais si les Sociniens y en trouvent, qu'a-t-on à lui dire ? Lui prouvera-t-on qu'il n'y en a pas ? Il commencera, lui, par vous prouver que c'est une absurdité de raisonner sur ce qu'on ne saurait entendre. Que faire donc ? Le laisser en repos. Je ne suis pas plus scandalisé que ceux qui servent un Dieu clément rejettent l'éternité des peines s'ils la trouvent incompatible avec sa justice. Quand pareil cas, ils interprètent de leur mieux les passages contraires à leur opinion plutôt que de l'abandonner, que peuvent-ils faire autre chose ? Nul plus pénétré que moi d'amour et de respect pour le plus sublime de tous les livres. Il me console et m'instruit tous les jours, quand les autres ne m'inspirent plus que du dégoût. Mais je soutiens que si l'Écriture elle-même nous donnait de Dieu quelque idée indigne de lui, il faudrait la rejeter en cela, comme vous rejetez en géométrie les démonstrations qui mènent à des conclusions absurdes. Car de quelque authenticité que ne puisse être le texte sacré, il est encore plus croyable que la Bible soit altérée, que Dieu injuste ou malfaisant. Voilà, monsieur, les raisons qui m'empêcheraient de blâmer ces sentiments dans d'équitables et modérés théologiens qui, de leur propre doctrine, apprendraient à ne forcer personne à l'adopter. Je dirais plus, des manières de penser si convenables à une créature raisonnable et faibles, dignes d'un créateur juste et miséricordieux, me paraissaient préférables à cet assentiment stupide qui fait de l'homme bête et à cette barbarie intolérante qui se plaît à tourmenter de cette vie ce qu'elle destine aux tourments éternels dans l'autre. En ce sens, je vous remercie pour ma patrie de l'esprit de philosophie et d'humanité que vous reconnaissez dans son clergé, et de la justice que vous aimez à lui rendre. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais, pour être philosophe et tolérant, sur la tolérance chrétienne, on peut consulter le chapitre qui porte ce titre dans le 11e livre de la doctrine chrétienne de M. le professeur Vernet. On y verra par quelles raisons l'Église doit apporter encore plus de ménagement et de circonspection dans la censure des erreurs sur la foi que dans celle des fautes contre les mœurs, et comment s'allie dans les règles de cette censure la douceur du chrétien, la raison du sage et le zèle du pasteur. Il ne s'ensuit pas que ses membres soient hérétiques. Dans le nom de parti que vous leur donnez, dans les dogmes que vous dites être les leurs, je ne puis ni vous approuver ni vous suivre. Quoiqu'un tel système n'ait rien peut-être que d'honorable à ceux qui l'adoptent, je me garderai de l'attribuer à mes pasteurs qui ne l'ont pas adopté, de peur que l'éloge que j'en pourrais faire ne fournit à d'autres le sujet d'une accusation très grave et ne nuisit à ceux que j'aurais prétendu louer. Pourquoi me chargerais-je de la profession de foi d'autrui ? N'ai-je pas trop appris à craindre ces imputations téméraires ? Combien de gens se sont chargés de la mienne en m'accusant de manquer de religion, qui sûrement ont fort mal lu dans mon cœur ? Je ne les taxerai point d'en manquer eux-mêmes, car un des devoirs qu'elles m'imposent est de respecter les secrets des consciences. Monsieur, jugeons les actions des hommes, et laissons Dieu juger de leur foi. En voilà trop peut-être sur un point dont l'examen ne m'appartient pas et n'est pas aussi le sujet de cette lettre. Les ministres de Genève n'ont pas besoin de la plume d'autrui pour se défendre. C'est ce qu'ils viennent de faire, à ce qu'on m'écrit, par une déclaration publique. Elle ne m'est point parvenue dans ma retraite. Mais j'apprends que le public l'a reçue avec applaudissement. Ainsi, non seulement je jouis du plaisir de l'avoir le premier rendu l'honneur qu'il mérite, mais de celui d'entendre mon jugement unanimement confirmé. Je sens bien que cette déclaration rend le début de ma lettre entièrement superflu, et le rendrait peut-être indiscret dans tout autre cas. Mais, étant sur le point de le supprimer, j'ai vu que, parlant du même article qui a donné lieu, la même raison subsistait encore, et qu'on pourrait toujours prendre mon silence pour une espèce de consentement. Je laisse donc ces réflexions d'autant plus volontiers que si elles viennent hors de propos sur une affaire devrait heureusement terminée, elles ne contiennent en général rien que d'honorable à l'Église de Genève et que d'utile aux hommes en tout pays. Ce n'est pas la mienne qu'ils choisiraient pour cela, et de pareilles discussions sont trop loin de mon inclination pour que je m'y livre avec plaisir. Mais, ayant à parler du même article où vous leur attribuez des opinions que vous ne leur connaissez point, cette observation, c'est y paraître adhérer, et c'est ce que je suis fort éloigné de faire. Sensible au bonheur que nous avons de posséder un corps de théologiens, philosophes et pacifiques, ou plutôt un corps d'officiers de morale. C'est ainsi que l'abbé de Saint-Pierre appelait toujours les ecclésiastiques, soit pour dire ce qu'ils sont en effet, soit pour exprimer ce qu'ils devraient être. Et de ministre de la vertu, je ne vois naître qu'avec effroi toute occasion pour eux de se rabaisser jusqu'à n'être plus que des gens d'église. Il nous importe de les conserver tels qu'ils sont. Il nous importe qu'ils jouissent eux-mêmes de la paix qu'ils nous sont dépés, que d'odieuses disputes de théologiens ne troublent point leur repos ni le nôtre. Il nous importe enfin d'apprendre toujours par leurs leçons et par leur exemple que la douceur et l'humanité sont aussi les vertus du chrétien. Je me hâte de passer à une discussion moins grave et moins sérieuse, mais qui nous intéresse encore assez pour mériter nos réflexions, et dans laquelle j'entrerai plus volontiers comme étant un peu plus de ma compétence. C'est celle du projet d'établir un théâtre de comédie à Genève. Je n'exposerai point ici mes conjectures sur les motifs qui vous ont pu porter à nous proposer un établissement si contraire à nos maximes. Quelles que soient vos raisons, il ne s'agit pour moi que des nôtres, et tout ce que je me permettrai de dire à votre égard, c'est que vous serez sûrement le premier philosophe qui jamais ait excité un peuple libre, une petite ville et un État pauvre à se charger d'un spectacle public. Que de questions je trouve à discuter dans celles que vous semblez résoudre. Si les spectacles sont bons ou mauvais en eux-mêmes, s'ils peuvent s'allier avec les mœurs, si l'austérité républicaine les peut comporter, s'il faut les souffrir dans une petite ville, si la profession de comédien peut être honnête, si les comédiennes peuvent être aussi sages que d'autres femmes, si de bonnes lois suffisent pour réprimer les abus, si ces lois peuvent être bien observées, etc. Tout est problème encore sur les vrais effets du théâtre, parce que les disputes qu'il occasionne ne partagent que les gens d'église et les gens du monde. Chacun ne l'envisage que par ses préjugés. Voilà, monsieur, des recherches qui ne seraient pas indignes de votre plume. Pour moi, sans croire y suppléer, je me contenterai de chercher dans cet essai les éclaircissements que vous avez rendus nécessaires, vous priant de considérer qu'en disant mon avis à votre exemple, je remplis un devoir envers ma patrie et qu'au moins, si je me trompe dans mon sentiment, cette erreur ne peut nuire à personne. Au premier coup d'œil jeté sur ces institutions, je vois d'abord qu'un spectacle est un amusement. Et s'il est vrai qu'il faille des amusements à l'homme, vous conviendrez au moins qu'ils ne sont permis qu'autant qu'ils sont nécessaires, et que tout amusement inutile est un mal pour un être dont la vie est si courte et le temps si précieux. L'état d'homme a ses plaisirs, qui dérivent de sa nature, et naissent de ses travaux, de ses rapports, de ses besoins. Et ces plaisirs, d'autant plus doux que celui qui les goûte à l'âme plus saine, rendent quiconque en fait jouir peu sensible à tous les autres. Un père, un fils, un mari, un citoyen ont des devoirs si chers à remplir qu'ils ne leur laissent rien à dérober à l'ennui. Le bon emploi du temps, le temps plus précieux encore, et mieux on le met à profit, moins on en fait trouver à perdre. Aussi voit-on constamment que l'habitude du travail rend l'inaction insupportable et qu'une bonne conscience éteint le goût des plaisirs frivoles. Mais c'est le mécontentement de soi-même, c'est le poids de l'oisiveté, c'est l'oubli des goûts simples et naturels qui rendent si nécessaire un amusement étranger. Je n'aime point qu'on ait besoin d'attacher incessamment son cœur sur la scène, comme s'il était mal à son aise au-dedans de nous. La nature même a dicté la réponse à ce barbare à qui l'on vantait les magnificences du cirque et des jeux établis à Rome. Les Romains, demande ce bonhomme, n'ont-ils à Rome, les Romains, n'ont-ils ni femme ni enfant ? Le barbare avait raison. L'on croit s'assembler au spectacle, et c'est là que chacun s'isole. C'est là qu'on va oublier ses amis, ses voisins, ses proches, pour s'intéresser à des fables, pour pleurer les malheurs des morts, ou rire aux dépens des vivants. Mais j'aurais dû sentir que ce langage n'est plus le saison dans notre siècle. Tâchons d'en prendre un qui soit mieux entendu. Demander si les spectacles sont bons ou mauvais en eux-mêmes, c'est faire une question trop vague. C'est examiner un rapport avant que d'en avoir fixé les termes. Les spectacles sont faits pour le peuple et ce n'est que par leurs effets sur lui qu'on peut déterminer leurs qualités absolues. Il peut y avoir des spectacles d'une infinité d'espèces. Il peut y avoir des spectacles blâmables en eux-mêmes, comme ceux qui sont inhumains ou indécents et licencieux. Tels étaient quelques-uns des spectacles parmi les païens. Mais il en est aussi d'indifférents en eux-mêmes, qui ne deviennent mauvais que par l'abus qu'on en fait. Par exemple, les pièces de théâtre n'ont rien de mauvais en tant qu'on y trouve une peinture des caractères et des actions des hommes, où l'on pourrait même donner des leçons agréables et utiles pour toutes les conditions. Mais si l'on y débite une morale relâchée, si les personnes qui exercent cette profession mènent une vie licencieuse et servent à corrompre les autres, si de tels spectacles entretiennent la vanité, la fainéantise, le luxe, l'impudicité, il est visible alors que la chose tourne en abus, et qu'à moins qu'on ne trouve le moyen de corriger ses abus ou de s'en garantir, il vaut mieux renoncer à cette sorte d'amusement. Voilà l'état de la question bien posée. Il s'agit de savoir si la morale du théâtre est nécessairement relâchée, si les abus sont inévitables, si les inconvénients dérivent de la nature de la chose, ou s'ils viennent de causes qu'on ne puisse écarter. Il y a, de peuple à peuple, une prodigieuse diversité de mœurs, de tempéraments, de caractères. L'homme est un, je l'avoue, mais l'homme modifié par les religions, par les gouvernements, par les lois, par les coutumes, par les préjugés, par les climats, devient si différent de lui-même qu'il ne faut plus chercher parmi nous ce qui est bon aux hommes en général, mais ce qui leur est bon dans tel temps ou dans tel pays. Ainsi, les pièces de Ménandre faites pour le théâtre d'Athènes étaient déplacées, sur celui de Rome. Ainsi, les combats des gladiateurs, qui sous la République animaient le courage et la valeur des Romains, n'inspiraient sous les empereurs à la populace de Rome que l'amour du sang et la cruauté. Du même objet offert au même peuple, en différents temps, il apprit d'abord à mépriser la vie et ensuite à se jouer de celle d'autrui. Quant à l'espèce des spectacles, c'est nécessairement le plaisir qu'il donne et non leur utilité qui la détermine. Si l'utilité peut s'y trouver à la bonne heure, mais l'objet principal est de plaire, et pourvu que le peuple s'amuse, cet objet est assez rempli. Cela seul empêchera toujours qu'on ne puisse donner à ces sortes d'établissements tous les avantages dont ils seraient susceptibles. Et c'est abuser beaucoup que de s'en former une idée de perfection qu'on ne saurait mettre en pratique sans rebuter ceux qu'on croit instruire. Voilà d'où naît la diversité des spectacles, selon les goûts divers des nations. Un peuple intrépide, grave et cruel veut des fêtes meurtrières et périlleuses où brillent la valeur et le sang-froid. Un peuple féroce et bouillant veut du sang, des combats, des passions atroces. Un peuple voluptueux veut de la musique et des danses. Un peuple galant veut de l'amour ou de la politesse. Un peuple badin veut de la plaisanterie et du ridicule. Trahit sua quemque voluptas, son propre plaisir entraîne chacun. Il faut pour leur plaire des spectacles qui favorisent leurs penchants, au lieu qu'il en faudrait qu'il les modérasse. La scène en général est un tableau des passions humaines, dont l'original est dans tous les cœurs. Mais si le peintre n'avait soin de flatter ses passions, les spectateurs seraient bientôt rebutés et ne voudraient plus se voir sous un aspect qui les fit mépriser d'eux-mêmes. Que s'ils donnent à quelques-unes des couleurs odieuses, c'est seulement à celles qui ne sont point générales et qu'on hait naturellement. Ainsi l'auteur ne fait encore en cela que suivre le sentiment du public. Et alors, ces passions de rebut font toujours employer à en faire valoir d'autres, sinon plus légitimes, du moins au plus au gré des spectateurs. Il n'y a que la raison qui soit bonne à rien sur la scène. Un homme sans passion, ou qui le dominerait toujours, n'y saurait intéresser personne. Et l'on a déjà remarqué qu'un stoïcien, dans la tragédie, serait un personnage insupportable. Dans la comédie, où il ferait rire, tout au plus. Qu'on n'attribue donc pas au théâtre le pouvoir de changer les sentiments ni les mœurs, qui ne peut que suivre et embellir. Un auteur qui voudrait heurter le goût général composerait bientôt pour lui seul. Quand Molière corrigea la scène comique, il attaqua des modes et ridicules, mais il ne choqua pas pour cela le goût du public. Pour peu qu'il anticipât, ce Molière lui-même avait peine à se soutenir. Le plus parfait de ses ouvrages tomba dans sa naissance parce qu'il le donna trop tôt, et que le public n'était pas mûr encore pour le misanthrope. Tout ceci est fondé sur une maxime évidente, savoir qu'un peuple suit souvent des usages qu'il méprise, ou qu'il est prêt à mépriser, sitôt qu'on osera lui en donner l'exemple. Quand, de mon temps, on jouait la fureur des pantins, on ne faisait que dire au théâtre ce que pensaient ceux-mêmes qui passaient leur journée à ce sot amusement. Mais les goûts constants d'un peuple, ses coutumes, ses vieux préjugés, doivent être respectés sur la scène. Jamais poète ne s'est bien trouvé d'avoir violé cette loi. Il le suivit ou le développa, comme fit aussi Corneille, où c'était l'ancien théâtre qui commençait à choquer ce goût, parce que, dans un siècle devenu plus poli, le théâtre gardait sa première grossièreté. Aussi, le goût général ayant changé depuis ces deux auteurs, si leur chef-d'œuvre était encore à paraître, tomberait-il infailliblement aujourd'hui? Les connaisseurs ont beau les admirer, toujours. Si le peuple les admire encore, c'est plus par honte de s'en dédire que par un vrai sentiment de leur beauté. On dit que jamais une bonne pièce ne tombe. Vraiment, je le crois bien. C'est que jamais une bonne pièce ne choque les mœurs. Je dis le goût, les mœurs, différemment, car bien les choses ne sont pas à l'autre. Elles ont toujours une origine commune et souffrent les mêmes révolutions. Ce qui ne signifie pas que le bon goût et les bonnes mœurs règnent toujours en même temps. Proposition, éclaircissement et discussion, mais qu'un certain état du goût répond toujours à un certain état des mœurs, ce qui est incontestable. Oui, vraiment, jamais une bonne pièce ne choque les mœurs de son temps. Qui est-ce qui doute que, sur nos théâtres, la meilleure pièce de Sophocle ne tombe pas tout à plat ? Ne saurait se mettre à la place des gens qui ne nous ressemblent point. Tout auteur qui veut nous peindre des mœurs étrangers a pourtant grand soin d'approprier sa pièce aux nôtres. Sans cette précaution, on ne réussit jamais, et le succès même de ceux qui l'ont prise a souvent des causes bien différentes de celles que lui suppose un observateur superficiel. Quand Arlequin sauvage est bien accueilli des spectateurs, pense-t-on que ce soit par le goût qu'ils prennent pour le sens et la simplicité de ce personnage, et qu'un seul d'entre eux voulut pour cela lui ressembler? C'est tout au contraire que cette pièce favorise leur tour d'esprit, qui est d'aimer et rechercher les idées neuves et singulières. Or, il n'y en a point de plus neuf pour eux que celle de la nature. C'est précisément leur aversion pour les choses communes qui les ramène quelquefois aux choses simples. Il s'ensuit de ces premières observations que l'effet général du spectacle est de renforcer le caractère national, d'augmenter les inclinations naturelles et de donner une nouvelle énergie à toutes les passions. En ce sens, il semblerait que cet effet, se bornant à charger et non changer les mœurs établies, la comédie serait bonne aux bons et mauvaises aux méchants. Encore, dans le premier cas, resterait-il toujours à savoir si les passions trop irritées ne dégénèrent point en vice. Je sais que la poétique du théâtre prétend faire tout le contraire et purger les passions en les excitant. Mais j'ai peine à bien concevoir cette règle. Serait-ce que pour devenir tempérant et sage, il faut commencer par être furieux et fou ? Et non, ce n'est pas cela, disent les partisans du théâtre. La tragédie prétend bien que toutes les passions dont elle fait les tableaux nous émeuvent, mais elle ne veut pas toujours que notre affection soit la même que celle du personnage tourmenté par une passion. Le plus souvent, au contraire, son but est d'exciter en nous un sentiment opposé à ce qu'elle prête à des personnages. Ils disent encore que si les auteurs abusent du pouvoir d'émouvoir les cœurs pour mal placer l'intérêt, cette faute doit être attribuée à l'ignorance et à la dépravation des artistes et non point à l'art. Ils disent enfin que la peinture fidèle des passions et des peines qui les accompagnent suffit seule pour nous les faire éviter avec tout le soin dont nous sommes capables. Il ne faut pour sentir la mauvaise foi de toutes ces réponses, que consulter l'état de son cœur à la fin d'une tragédie. L'émotion, le trouble et l'attendrissement qu'on sent en soi-même et qui se prolonge après la pièce, annoncent-ils une disposition bien prochaine à surmonter et régler nos passions ? Les impressions vives et touchantes dont nous prenons l'habitude et qui reviennent si souvent sont-elles bien propres à modérer nos sentiments aux besoins ? Pourquoi l'image des peines qui naissent des passions effacerait-elle celle des transports de plaisir et de joie qu'on en voit au naître et que les auteurs ont soin d'embellir encore pour rendre leurs pièces plus agréables ? Ne fait-on pas que toutes les passions sont sœurs qu'une seule suffit pour en exciter mille et que les combattre l'une par l'autre n'est qu'un moyen de rendre le cœur plus sensible à toutes. Le seul instrument qui serve à les purger est la raison. Et j'ai dit que la raison n'avait nul effet au théâtre. Nous ne partageons pas les affections de tous les personnages, il est vrai, mais car leurs intérêts étant opposés, il faut bien que l'auteur nous en fasse préférer quelqu'un. Autrement, nous n'en prendrions point du tout. Mais loin de choisir pour cela les passions qu'il veut nous faire aimer, il est forcé de choisir celles que nous aimons. Et ce que j'ai dit du genre des spectacles doit s'entendre encore de l'intérêt qu'on y fait régner à Londres. Un drame intéressé en faisant haïr les Français. À Tunis, la belle passion serait la pirater. À Messine, une vengeance bien favoreuse. À Goa, l'honneur de brûler des Juifs. Comment être pour voir sur la scène française un homme droit et vertueux, mais simple et grossier, sans amour, sans galanterie, et qui ne fasse point de belles phrases. Qu'on y mette un sage, sans préjugés, qui, ayant reçu un affront d'un spadassin, refuse de s'en aller faire égorger par l'offenseur, et qu'on épuise tout l'art du théâtre pour rendre ces personnages intéressants comme le Cid au peuple français. J'aurais tort s'il en réussit. Qu'un auteur choque ses maximes, il pourra faire une fort belle pièce, où l'on n'ira point. C'est alors qu'il faudra taxer cet auteur d'ignorance, pour avoir manqué à la première loi de son art, celle qui sert de base à toutes les autres, qui est de réussir. Ainsi le théâtre purge les passions qu'on n'a pas, et fomente celles qu'on a. Oh, ne voilà-t-il pas un remède bien administré ? Il y a donc un concours de causes générales et particulières qui doivent empêcher qu'on ne puisse donner au spectacle la perfection dont on les croit susceptibles et qu'ils ne produisent les effets avantageux qu'on semble en attendre. Quand on supposerait même cette perfection aussi grande qu'elle peut être, et le peuple aussi bien disposé qu'on voudra, encore ces effets se réduiraient-ils à rien, faute de moyens pour les rendre sensibles. Je ne sache que trois sortes d'instruments à l'aide desquels on puisse agir sur les mœurs d'un peuple, savoir la force des lois, l'empire de l'opinion et l'attrait du plaisir.